Alors du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous, chers enfants, que je m'adresserai ce matin, c'est à vous que je vais expliquer toute la splendeur, la beauté, la grandeur de cette fête de ce matin, les décors, les décorations, le manifeste. Pourquoi, chers enfants, Jésus-Christ s'est-il livré à la mort? Pourquoi Jésus-Christ s'est-il donné à nous en nourriture? Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce plan? Vous connaissez la réponse. Saint Jean, dans son évangile, nous dit « Le Seigneur a aimé les siens. Les siens, c'est-à-dire tous ceux qu'il protège d'une tendre sollicitude, il les a aimés jusqu'à la fin. Et pour prouver cet amour divin, admirable, infini, Dieu, Jésus-Christ, a employé un moyen incompréhensible. Incompréhensible, et vous le savez, infiniment au-dessus de tout ce qu'on peut découvrir dans la nature. On vient de chanter, c'est saint Paul qui le dit. Jésus prit du pain, puis rendant grâce à Dieu, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples et leur dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, continue saint Paul, il prit pareillement la coupe, et après avoir soupé, il dit, « Ce calice est le Nouveau Testament dans mon sang. Toutes les fois que vous le boirez, faites-le en mémoire de moi. » Et vous savez que c'est le prêtre, lui seul, qui consacre le pain et le vin. Vous croyez fermement que le pain est converti au corps de notre Seigneur et le vin en son sang. Vous croyez, mais vous ne pouvez pas saisir. Vous ne pouvez pas non plus le voir. C'est impossible. C'est un miracle extraordinaire. Vous le croyez, c'est-à-dire que seule la foi que vous avez reçue au baptême, la foi vous l'atteste. Oui, c'est la foi elle-même que Jésus-Christ lui-même vous a donnée au baptême qui vous permet de tenir fermement attaché à ce sacrement et de comprendre que la chair, le corps bien réel, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans l'Eucharistie, que son corps, sa chair, est vraiment une nourriture. Oui, nous mangeons Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre saint Jean qui le dit. Mais vous-même, chers enfants, êtes-vous vraiment attachés, touchés par cet amour de Jésus pour vous? Êtes-vous touchés par cet amour infini? Ou bien êtes-vous étranger? Êtes-vous indifférent? Est-ce que vous vous reconnaissez différent de tous les autres enfants, de ces milliards d'enfants qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort? Ces milliards d'enfants qui n'ont pas la foi aujourd'hui? Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes différent? Est-ce que vous aimez Jésus? Il ne faut pas être indifférent. Il ne faut pas être, comme dit la Bible, assis dans les ténèbres. Il faut être dressé droit vers la lumière. Et l'Eucharistie est la lumière. C'est la vérité. Il faut se tenir comme des tournesols face au soleil. Oui, Jésus doit être notre soleil, et vous devez être ces fleurs qui tournent au fur et à mesure que le soleil tourne sur l'horizon. L'Eucharistie doit donc être le soleil de votre vie. Et vous savez que sans soleil, les plantes meurent. Elles ont besoin de la lumière. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est réellement présent dans l'Eucharistie, est notre lumière. Il est la lumière, il l'a dit lui-même. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit parfaitement ceci. Car aucun de ceux qui ne croient pas ou qui ne croient plus que l'Eucharistie est le fruit divin du sacrifice de la messe, qui est le sacrifice de la croix, aucun de ceux-là ne vit plus dans la lumière. Alors leur intelligence, leur esprit s'enfonce dans les ténèbres. Et comme le tournesol, cette fleur jaune, se tourne pour suivre le mouvement du soleil à l'horizon, vous aussi, vous avez à tourner votre esprit vers Jésus-Christ et lui seul. La connaissance du mystère de la messe doit vous attirer. Il vous est légitime de mieux apprécier le cœur de notre religion. Et vos parents, vos catéchismes, on se fera un plaisir de vous éclairer, de répondre aux questions que vous vous posez peut-être. Cependant, la plus grande connaissance que vous pourriez avoir de l'Eucharistie viendra par vous-même. Oui, même enfant, c'est par vous-même que vous découvrirez la grandeur de la messe. En suivant attentivement ces cérémonies, en regardant les moindres mouvements liturgiques et l'icône, le séminaire est pour ça un lieu privilégié. Alors venez-y souvent, demandez, réclamez même qu'on vous conduise à la messe. Le tournesol, cette fleur jaune, est grand ouvert au soleil et il reçoit autant que faire se peut cette lumière. Soyez les tournesols. Soyez ouverts. Ouverts par vos yeux. Ouverts par vos oreilles. Dans le silence intérieur pour regarder cette merveille de la messe qui se déploie sur vous. Tous ces mouvements liturgiques du prêtre, du diacre, du sous-diacre, des acolytes, du curiféré. Regardez et cherchez à comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Si Jésus a voulu s'offrir ainsi, c'est pour vous. C'est pour vous, chers enfants, qui êtes les privilégiés de cet amour de Jésus. Et c'est dans l'Évangile. Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu des apôtres, et l'ayant embrassé, oui, Jésus a embrassé ce petit enfant qui venait à lui, il a dit à ses apôtres, « Celui qui reçoit l'un de ses petits enfants, non, le reçoit. » Vous auriez certainement souhaité être ce petit enfant que Jésus, qui est Dieu, a embrassé. Eh bien, dans la communion eucharistique, lorsque vous communiez, le lien, le contact que vous avez avec notre Seigneur est bien plus grand, bien plus profond, bien plus intime avec Jésus-Christ que ce contact humain qu'eut alors cet enfant. Car en Jésus, c'est Dieu qui vous possède, qui vous prend dans la communion. Mais il faut bien sûr être vigilant, recueilli dans son action de grâce et ne pas papillonner. Le soleil n'apporte pas seulement la lumière au tournesol, à cette fleur, mais il lui apporte aussi la chaleur. De même, Jésus apporte la chaleur à nos âmes. Il y a des milliards d'enfants qui ne croient pas en Jésus dans l'Eucharistie. Il y a des milliards d'enfants qui n'adorent pas Jésus dans l'Eucharistie. Il y a des milliards d'enfants qui n'espèrent pas en Jésus dans l'Eucharistie. Il y a des milliards d'enfants qui n'aiment pas Jésus dans l'Eucharistie. Tous ces enfants, imaginez-les, répandus par tout le monde, et dans le Valais et ailleurs, tous ces enfants sont assis à l'ombre de la mort. Ils sont chagrins, ils sont tristes, ils sont froids. Mais vous, Jésus, vous a choisi pour ses amis. Vous êtes les amis de notre Seigneur. Vous êtes constamment dans son souci, dans sa charité. Et vous savez que la charité divine, c'est Dieu. C'est un feu consumant. Oui, la Bible le dit. Dieu est un feu consumant qui ne demande qu'à vous embraser. Le croyez-vous? L'attendez-vous? Désirez-vous être embrasé par cette chaleur de Dieu, son amour? Tournez-vous vers Jésus-Christ comme le tournesol se tourne vers le soleil pour être réchauffé par lui. Et se tourner vers notre Seigneur pour être réchauffé par lui, c'est désirer comme il y est. La communion ne doit pas être une habitude. Il faut la désirer, il faut la vouloir, il faut la souhaiter. Il faut avoir cette même démarche que la Sainte Vierge. Vouloir s'approcher le plus près possible de la croix et ne vivre que de Jésus. Et il y a un bel exemple à cet égard. Vous le connaissez peut-être. La bienheureuse Imelda avait été déclarée trop jeune pour recevoir notre Seigneur dans la communion. Et pourtant, cette petite fille désirait ardemment recevoir Jésus. Alors, avec d'autres compagnes, le jour de l'Ascension, elle est à la messe. Le jour de l'Ascension, elle ne peut pas communier. Toutes ses compagnes, un peu plus âgées, s'approchent de la table de communion et elle supplie en son cœur, silencieusement, avec des larmes même, elle supplie que Jésus vienne en elle. Elle veut recevoir notre Seigneur. Et elle supplie tellement cet enfant Jésus que Jésus écoute sa prière. Alors que les hommes l'avaient jugée trop petite, inapte pour le moment à recevoir Jésus, Jésus fait un miracle. Une hostie se détache seule du ciboire que tenait le prêtre qui distribue la communion. Et cette hostie se déplace dans l'air. Elle va jusqu'à s'arrêter au-dessus de cette petite fille, Imelda. Toute l'église est remplie d'une clarté subite et même d'une odeur tout à fait agréable, d'un parfum qui s'y répand. Alors le prêtre, comme tous les fidèles, étonné de ce miracle, le prêtre s'approche d'Imelda. Il prend l'hostie qui est en suspension au-dessus de sa tête et il communie la bienheureuse pour la première fois de sa vie. Imelda, de cette façon-ci, va recevoir pour la première fois la communion. Et mystère, c'est aussi la dernière fois qu'elle la recevra. Car tellement unie à Jésus dans l'Eucharistie, que Jésus, dans cette action de grâce, l'a prise avec lui. Et Imelda quitta ce monde. Voilà ce que peut le désir d'un enfant sur le cœur de Jésus eucharistique. On vient de le chanter. Voici le pain des anges, devenu l'aliment de l'homme pèlerin. C'est vraiment le pain des enfants qu'il ne faut pas jeter aux chiens. Et l'Évangile atteste partout, dans toutes ses pages. Jésus-Christ est le médiateur du Nouveau Testament, afin que par sa mort, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Saint Paul a dit aux Hébreux qu'effectivement, c'est par Jésus-Christ seul qu'on va au ciel. Ce n'est pas par Allah, ce n'est pas par Bouddha, ce n'est par aucune idole qu'on peut atteindre à la communion éternelle du ciel. Celui qui me mange, avec Jésus, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange, avec Jésus, aura la vie éternelle. Vous savez cependant que la beauté des fleurs ne va pas sans leur fragilité. Et peut-être vous vous êtes amusé à enlever les pétales de l'une ou l'autre. Jamais un chêne n'aura l'éclat rayonnant d'un tournesol. Il ne peut atteindre la finesse de cette fleur. Et si le chêne avait l'allure, c'est par sa résistance, son ampleur. La fragilité du tournesol permet encore de vous y comparer. Vous savez, chers enfants, et votre humilité en souffre, j'en suis convaincu, qu'on s'extasie souvent sur votre prime jeunesse. On est là, les grandes personnes se mènent presque à quatre pattes pour vous regarder. Ils s'extasient, oui, devant votre fragilité, votre douceur, votre charme. Mais vous le savez, vous, votre prime jeunesse est en même temps votre précarité. Et le tournesol, comme toutes les fleurs, craint. Il craint les assauts des pluies, il craint les assauts des vents. Les pluies souillent ses pétales, les vents peuvent ravir son cœur. Vous aussi, comme le tournesol, vous pouvez craindre de n'être plus à Jésus-Christ. Vous pouvez craindre de ne plus être illuminé de sa vérité, réchauffé de sa charité. Oui, les pluies de l'impureté, les vents des idées fausses peuvent vous détruire. L'impureté vous atteint comme la pluie atteint les pétales du tournesol. Et qu'est-ce qu'une fleur sans pétales? Un être sans éclat, une plante sans beauté, flétrie, prête à être jetée et qui crèvera. Un peu de pluie abîme déjà cette belle couronne de pétales. Beaucoup de pluie en détruit toute l'harmonie. Alors, chers enfants, veillez, veillez sur vos sens, veillez sur vous-même pour n'être pas atteint par ces pluies immondes qu'il faut pourtant traverser en ce monde. Mais plus grave que ces pluies, ce sont les vents. Les vents des fausses doctrines. Ils sont bien pires encore, ces vents. Bien plus dangereux même que ces pluies, ils sont plus dévastateurs. Car les vents transportent des pollens, vous savez, mais des pollens d'erreur qui vont étouffer les plantes, même les plus belles, même les plus fortes, qui vont étouffer en un clin d'œil toute cette belle floraison. Et vous le savez, chers enfants, notre esprit, notre intelligence est fragile. Très fragile, extrêmement fragile. Notre intelligence, notre esprit, c'est comme une cire molle. Et dans une cire molle, la moindre empreinte peut y rester définitivement. Alors il faut se méfier de ces vents des fausses doctrines, de ces erreurs qui circulent en ce monde et en ce moment. Par exemple, certains disent que la messe est une scène. Certains disent que la messe n'est qu'un repas. Et c'est faux. C'est faux. D'autres disent qu'on peut se sauver dans toutes les religions, qu'on peut aller au ciel en adorant n'importe qui. Mais c'est faux. C'est même un blasphème. Jésus n'est pas une statue. Jésus est vivant dans l'Eucharistie. Il est Dieu qui se donne à nous. Voilà ces vents des fausses doctrines. Ce sont des vents violents, terriblement dévastateurs, mais ils sont chauds et suaves. Alors ils peuvent ravir l'esprit, ils peuvent tromper. Méfiez-vous alors, protégez vos intelligences de cet étouffement. N'abreuvez pas vos esprits de mauvais livres, qui font circuler des mauvaises idées, qui font croire que d'autres sont aussi puissants que Jésus dans l'Eucharistie. Ce sont des erreurs, ce sont des blasphèmes, ce sont des destructeurs de vos esprits. Méfiez-vous. Il faut se méfier de ces mauvais livres, de ces mauvaises doctrines, comme du feu de l'enfer. Oui, il ne faut pas toucher même à ces erreurs. Et pensez à ces milliards d'enfants qui ne le savent pas et sont abreuvés de ces immondices qui sont assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Il faut donc être des chrétiens, tout simplement. C'est-à-dire ordonner au Saint-Sacrement comme des tournesols vers le soleil. Jésus, au très Saint-Sacrement, doit être notre unique lumière, notre unique espérance. Le Saint-Sacrifice de la messe, qui est un et même que celui de la croix, doit être le pôle de vos vies. Il doit orienter toute votre vie, dès maintenant. Un tournesol tient tout son éclat, sa parure, du fait qu'il est illuminé, chauffé par le soleil. De même, vous n'aurez d'éclat, vous n'aurez de véritable parure, vous n'aurez de véritable beauté aux yeux de Dieu et même aux yeux des hommes, car ça reflète sur le visage, que si vous êtes ordonné à Jésus au très saint sacrement, que si vous êtes ordonné à Jésus crucifié, car c'est tout un. Saint Jean le rapporte, c'est Jésus qui l'a dit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, dit Jésus, il est jeté dehors. Comme une fleur. Une fleur qui a perdu ses pétales, ou dont le cœur fut ravi par les vents d'une pluie, une fleur qui n'est plus tournée vers le soleil, elle pourrit. Qu'est-ce qu'on fait d'une fleur pourrie? On la jette. Comme on jette une fleur pourrie, Jésus rejettera une âme flétrie. Alors aujourd'hui, demandez, alors que le combat fait rage tout autour, pour ravir vos âmes. Demandez simplement, silencieusement, sincèrement, du fond de vos cœurs, que Jésus-Christ au très saint sacrement soit en vérité, comme dit l'Antienne, l'Orient, la splendeur de la lumière éternelle, le soleil de justice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chère famille du séminaire, bien chère famille valaisanne, et vous surtout, bien chère premier communion. Il y a des choses à vous dire aujourd'hui, puisque c'est un grand jour. Et pour cela, pour essayer d'un petit peu ouvrir votre cœur, vous préparer à recevoir notre Seigneur, j'aimerais vous parler quelques phrases, quelques paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisées durant sa vie. La première, il l'a dit la veille de sa mort. Il a dit « J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » J'ai désiré avec ardeur. Et c'est ce moment qui va arriver pour vous. Où vous allez pouvoir manger notre Seigneur. C'est ça que vous avez appris. Les séminaristes vous ont enseigné cela. Que l'hostie, c'était plus du pain. Mais une fois la consécration achevée, c'était Jésus-Christ. Il n'y avait plus que Jésus-Christ. Plus rien d'autre. Malgré qu'on voit avec nos yeux de chair, on voit encore du pain. Vous avez encore appris qu'il fallait avoir du respect, qu'on n'arrivait pas devant notre Seigneur n'importe comment. C'est pour ça que vous êtes prêts aujourd'hui, vous êtes même habillés pour cela. Prêts à venir recevoir notre Seigneur avec respect. Vos aubes sont l'image de votre âme qui est prête à recevoir Jésus dans son âme. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fini d'approfondir, qu'on n'a jamais assez compris. C'est pourquoi Jésus, il a fait cela. Pourquoi notre Seigneur, il vient se donner à manger. Incroyable. Eh bien, il y a 2000 ans, Jésus était devant ses apôtres. Il les regardait, il les voyait si fragiles, si faibles, même prêt à le trahir. Il les voyait, ils étaient devant lui à table. Mais il ne faut pas oublier, Jésus est Dieu. Et Dieu voit voit un peu plus loin que nous. Il voyait tous les hommes. Il nous voyait, nous. Il vous voyait, vous, aujourd'hui. Aussi, si fragile, si distrait quelquefois, on a de la peine à prier le bon Dieu. Il les a regardés, il nous a regardés, Jésus, et il nous a aimés jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'au bout, alors il va faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai désiré d'un grand désir. Il a brûlé d'amour pour nous, alors il va créer quelque chose pour nous. Il va continuer à parler à ses apôtres, il va leur dire, « Vous savez, mes amis, je vais bientôt devoir partir. Car mon Père, qui est dans le ciel, il m'appelle. Je dois retourner au ciel. Alors si je pars, je ne pourrai plus être au milieu de vous. » Et les apôtres étaient tristes. Mais Jésus a dit, « J'ai désiré d'un grand désir, avec ardeur, que vous me mangez. » Alors il va inventer un système, un moyen pour rester tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il va inventer justement le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, la communion. Je vous aime tellement que tant pis, dès que quelquefois je vais rester des heures, des jours, tout seul au tabernacle. Il y aura certaines personnes qui vont m'insulter, m'outrager. Mais tant pis, pour vous, je veux faire cela. Je veux rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous êtes si fragile, vous êtes si inconstant. Alors Jésus va transformer, changer le pain en son corps et le vin en son sang, pour qu'il puisse rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Et en même temps, lui peut obéir à son Père. Il peut retourner au ciel. Extraordinaire, l'amour du bon Dieu pour nous. Il a des moyens pour arriver à nous capter, à changer notre âme. Et Jésus, il voit ses apôtres, il nous voit. Et il voit des enfants. Nous tous, on est des enfants qui, lorsqu'ils ont faim, ils ouvrent la bouche. Lorsqu'ils sont sales, ils pleurent. Eh bien, avec Jésus, c'est la même chose. Il va nous nourrir, nous éduquer, nous laver. Bien sûr, notre âme qui a faim, qui a soif, et qui a besoin d'avoir un peu de force pour pouvoir se défendre. Alors Jésus est venu pour nous nourrir, pour nous éduquer, pour être comme une bonne maman avec nous. Il s'occupe de nous tout le temps. Il a toujours ce souci, de peur que nous tombons, que nous faisons mal. Mais ce n'est pas tout. Le même soir, les apôtres posaient des questions. Ils n'avaient pas tout compris. Et Jésus va leur dire une parole qui est assez terrible, puisqu'elle nous concerne aussi. Voici si longtemps que vous êtes avec moi et vous n'avez pas su me connaître. Vous n'avez pas appris à me connaître. Voyez, chers enfants, aujourd'hui, vous allez pouvoir connaître tout près de vous, en vous, Jésus. Et vous allez pouvoir le recevoir souvent. Au moins tous les dimanches. Et même les jours de semaine. On peut recevoir Jésus tous les jours. Eh bien, le problème, c'est que malheureusement, quelquefois on communie souvent. Et souvent on n'en profite même pas. Ça fait longtemps que vous venez communier et vous ne me connaissez même pas. Ça, il faut prendre garde. On peut gaspiller Jésus. On peut gaspiller Dieu. Incroyable. Oui, on peut gaspiller. Si on va chaque fois recevoir Dieu, le bon Dieu, Jésus, par la communion, et puis on y va comme si c'était normal, on s'habitue, comme si la communion était un jouet dont on se lasse. On a assez joué, bon, ça ne nous intéresse plus. Ce n'est pas ça, Jésus. Jésus est Dieu. Et on n'a jamais fini de goûter Dieu, de connaître Dieu. D'ailleurs, les saints qui sont dans le ciel, ils font que ça. Ils essayent de connaître toujours mieux Dieu, d'aimer toujours mieux le bon Dieu. Et souvent, on n'est pas des saints, même nous les grands, malheureusement pas les grands, parce qu'on ne profite pas assez de nos communions. Jésus va nous parler dans notre âme. Comment Jésus nous parle? Il ne nous a pas mis de téléphone dans notre âme. On ne l'entend pas comme s'il nous parlait à l'oreille. Non. Comment il nous parle, Jésus? Vous le savez? Vous l'avez déjà entendu parler? Eh bien, pourtant, il nous parle. Nos bons sentiments, nos bons désirs. Je dois être obéissant. Je dois être fidèle. Je dois être pur. Quand on entend cela dans notre âme, c'est Jésus qui nous parle. Et il nous parle souvent comme ça, à nous tous. Eh bien voilà, quand on va communier, on va dire, « Mon Dieu, il faut que j'essaye de bien vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Les enfants qui disent, « J'ai pas envie de cela, je veux pas faire ceci. » C'est les enfants qui n'écoutent pas Jésus. Les grandes personnes qui savent exactement tout ce qu'ils vont faire, moi je sais assez ce que j'ai à faire, sans se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est la même chose. Ils ne profitent pas des communions, ils gaspillent Jésus. Et c'est ça qu'il faut apprendre, à ne pas gaspiller le bon Dieu. Ça fait si longtemps que je suis avec vous, et vous n'avez pas su me connaître. Vivre des années avec Jésus et pas être capable de le connaître à cause de notre faute, à cause de nous, par notre faute. Il faut faire attention à cela. Et ça commence dès aujourd'hui. Une première communion, eh bien, il faut bien se préparer. Mon Jésus, je dois vous adorer parce que vous êtes le bon Dieu. Et je dois apprendre à vous obéir tout le temps. Je dois vous apprendre à obéir parce que je suis un enfant. Une enfant? Non. Nous sommes tous des enfants, je vous ai dit, devant Jésus. Tous. Les grandes personnes, comme les petits. On est des enfants qui ont besoin d'être nourris, éduqués, lavés, etc. On a besoin de Jésus. On est toujours des enfants face à notre Seigneur. Eh bien voilà, il faut encore une petite image qui peut vous aider à avancer un peu plus loin. C'est l'ange du Portugal qui, en 1917, a donné la communion aux trois enfants de Fatima. Il leur a dit, « Mangez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas de réparer pour les pécheurs et de rendre gloire à Dieu. » Vous savez, aujourd'hui, vous allez avoir une puissance extraordinaire. Partout autour de nous, le monde va mal. Vous savez, il y a des pécheurs partout. Il y a des graves péchés qui se font dans le monde, c'est-à-dire des graves insultes à Jésus-Christ. Eh bien, vous, aujourd'hui, vous allez pouvoir réparer. C'est ce que dit l'ange aux enfants de Fatima. Il va dire à des petits-enfants, « Faites quelque chose. » Apprenez à faire des sacrifices pour sauver les pécheurs. Offrez vos journées. Vous le faites quand vous... Je vois, vous avez la croisade eucharistique. Et bien là, on écrit chaque jour les sacrifices qu'on a faits. Voyez ? Et bien, c'est dans la même suite des communions. À la communion, on peut offrir pour Jésus, pour réparer. Quand quelqu'un est blessé, on peut essayer de le soigner. Eh bien, Jésus, c'est ça. Jésus est blessé de nos jours par les insultes, par les pécheurs. Eh bien, vous, par vos communions, vous allez pouvoir l'aider. Vous allez pouvoir soigner Jésus. Lui qui vous donne tant de bien, vous allez pouvoir lui rendre. Alors, voyez, prenez bien à cœur de bien faire votre communion. Il faudra vous fermer à tout ce qui est à l'extérieur de vous pour n'essayer de voir que entendre Jésus qui va parler dans votre âme. Alors demandez bien cette grâce à Notre-Dame votre maman du ciel. Elle va vous aider. Elle va vous tenir par la main, si vous lui demandez. Ma bonne mère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ma bonne mère, j'ai envie de regarder à gauche, à droite. Eh oui, c'est difficile de toujours bien prier. Mais demandez à votre maman du ciel de bien prier, d'être bien, tout donner à notre Seigneur, pour que les grâces, pour que votre âme puisse rejaillir de ce feu que Jésus veut venir vous donner. J'ai désiré d'un grand désir. Ça veut dire qu'il veut mettre un feu dans votre âme. Alors allez-y, venez communier tout à l'heure et mettez toute votre âme et dans les mains de Notre-Dame et dans les mains de Jésus, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers confirmants, mes bien chers frères, à la confirmation, nous recevons le Saint-Esprit, comme les apôtres le jour de la Pentecôte, seulement avec moins d'éclat, mais produisant les mêmes effets surnaturels et mystérieux dans nos âmes. Donc tout d'abord, nous recevons le Saint-Esprit, le caractère, imprimé dans nos âmes, qui fait de nous des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devenons des parfaits chrétiens, c'est-à-dire du point de vue surnaturel, nous rassemblons parfaitement notre modèle, notre archétype, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité. Et les sacrements en particulier qui impriment un caractère dans l'âme établissent un rapport particulier entre le chrétien et le Christ. Entre le chrétien et le Christ comme chef, comme tête de l'Église, du corps mystique. Et chaque sacrement nous donne une grâce particulière. Sinon, ce serait un trop. Eh bien, la confirmation nous donne comme grâce propre la force, mais non pas la vertu des forces ou le don des forces. C'est plutôt une confirmation de toute notre vie surnaturelle et chrétienne. La vie des dieux dans nos âmes est confirmée. Elle est raffermie. Elle est plus solide. Et c'est donc plutôt la force comme condition de la pratique héroïque, même s'il le faut, de toutes les vertus. Le rapport particulier que ces sacrements établissent avec notre Seigneur, c'est avec un aspect de la mission et de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ lui-même nous a dit, c'est pour cela que je suis venu en ce monde, et c'est pour cela que je suis né, afin de rendre témoignage de la vérité. Donc lui-même nous dit, je suis venu afin de vous enseigner toute vérité et afin de donner ma vie à cause de ces témoignages. Car c'est précisément parce qu'il a dit la vérité, toute la vérité, qu'il a été condamné à mort. Donc tout d'abord, notre Seigneur est venu pour nous faire connaître la vérité, témoigner de la vérité, la vérité salutaire, donc la vérité surnaturelle. Et puis l'apôtre saint Paul nous dit aussi que notre Seigneur a donné sa vie, qu'il s'est livré lui-même pour l'Église, son épouse. Il a donné sa vie à cause de l'amour qu'il portait à la Sainte Église. Et afin de se la rendre sainte, immaculée, sans tache, sans ride, glorieuse, dit saint Paul. Bien, voilà la mission du confirmé. Le confirmé reçoit un pouvoir du Christ, chef de l'Église, afin de défendre la foi, la vérité, et défendre la Sainte Église. C'est pour cela qu'on reçoit la confirmation, pas seulement pour devenir parfait chrétien. Et cette foi, comme l'enseigne le catéchisme, elle est contenue dans l'Écriture et la tradition. Dans l'Écriture et la tradition. Donc en définitive, les confirmés ont pour office de protéger le dépôt de la foi, la tradition, la parole de Dieu. De la recevoir fidèlement, de la transmettre fidèlement, chacun à sa place, et c'est donc son office, mais tous avec fidélité. Évidemment, cette foi contenue dans ces deux sources de la révélation, elle imprègne toute la vie catholique et chrétienne, que ce soit la liturgie, ou les droits de l'Église, ou le droit politique, la vie sociale, la vie familiale. Cette foi imprègne tout. Et il s'agit de la défendre partout. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, que nous appelons la Vierge fidèle, de nous donner cette fidélité personnelle à la grâce, à la foi, à cet office dont la Sainte Église a besoin. Il apparaît clairement qu'aujourd'hui l'Église est attaqué un peu de partout, même de l'intérieur. Plus que jamais, nous devons nous engager dans cette défense de la foi. Avec fidélité, force et avec paix, sans amertume. Nous sommes vraiment des privilégiés qui avons le trésor de la révélation, le trésor de la foi. Et tous les biens qui s'en suivent. Alors, demandons à la Vierge Marie la fidélité, et puis qu'elle ouvre son cœur immaculé, qu'il nous les donne comme le refuge, comme le château fort, où nous pouvons nous réfugier, et que ce soit son cœur notre chemin pour aller finalement à Dieu. Car en définitive, tout est là. Il nous faut conquérir la vie éternelle, la béatitude éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.